l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Toulouse, 97.9.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour Présence Midi, c'est la rentrée. Les vacances sont déjà derrière nous et je vois, Anne-Rose, que vous avez sorti votre trousse écartable.
Exactement, j'ai ma petite gomme, mon taille-crayon, tout est prêt.
Alors c'est la rentrée, mais pas question de perdre le sourire, hein. C'est de la bonne humeur
non,
qui nous attend pour cette Présence Midi.
Au contraire.
Et de la rentrée, il en sera question dans cette émission avec vos invités dans un instant, dans une demi-heure précisément, avec le directeur de l'institution, Jeanne d'Arc Tarbes.
Oui, tout à fait, Thierry Gilles sera en direct depuis le collège et le lycée Jeanne d'Arc en plein centre-ville de Tarbes. Les sixièmes ont fait leur rentrée ce matin. Les autres vont suivre cet après-midi. Il va nous dire un petit peu quelle est l'ambiance dans cette institution.
Et dans un instant, à votre micro, c'est la directrice de l'ADAPI.
Oui, Madame Lucotte Rougier, présidente de l'ADAPI des Hautes-Pyrénées, qui nous parlera de cette campagne nationale J'ai pas école en 2026 et qui veut sensibiliser le grand public au fait que des enfants, de nombreux enfants en situation de handicap n'ont pas encore accès à l'école.
Dans cette émission également, on parlera de la rentrée avec une semaine chargée pour le diocèse de Tarbes et Lourdes et un beau week-end en perspective, notamment pour la journée de dimanche.
Oui, puisque les jeunes du diocèse de 7 à 35 ans sont invités à se rassembler tout au long de la journée, une journée qui s'achèvera pour tous les fidèles du diocèse en la cathédrale Notre-Dame de la Cède pour l'ordination diaconale de l'un de nos séminaristes.
On va parler de tout ça dans un instant et puis on restera un petit peu en vacances puisqu'on va vous proposer le top 5 des panoramas à découvrir dans les Pyrénées.
Bien sûr, c'est formidable. Et vous avez oublié de dire, Gilles, qu'aujourd'hui, mardi 1er septembre, c'est la rentrée et c'est la Saint-Gilles. Bonne fête à vous, Gilles.
Ah, c'est gentil, merci. C'était important de le dire.
C'était très important pour moi.
Gentil. On fait un point sur l'info avec les titres et l'essentiel de l'actualité avec Éric Leclerc.
Social, la grève massivement reconduite chez Airbus en Espagne. Un mouvement débuté le 25 août pour demander une amélioration des conditions de travail. En France, la CGT réfléchit à lancer un appel à la grève le 12 septembre. En effet, ce jour-là, une manifestation est prévue à Madrid. Mutation au parquet général de Bordeaux de la procureure d'Auch, Clémence Meyer. Elle était en poste depuis novembre 2023, victime de harcèlement et de menaces de mort après le décès de Liana en juin. À ce jour, on ne connaît pas le nom de son successeur. La mission patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine, vient d'annoncer les 100 sites départementaux de métropole et d'outre-mer lauréats en 2026. Ils bénéficieront du soutien financier de la 9e édition de l'offre de jeu lancée ce jour par FDJ United. En Occitanie, voici les sites concernés. La chapelle de Luja à Aumolac, Ussat-les-Bains en Ariège, la Roujarie à Saint-André-de-Vézines en Aveyron, le château de la Salvetat-Saint-Gilles en Haute-Garonne et l'église abbatiale de l'abbaye Sainte-Marie-de-Boulor dans le Gers.
Merci Éric Leclerc, on vous retrouve à 12h30 pour développer ces titres dans le journal. À tout à l'heure.
Radio Présence à Millau, 106.5.
Et avec cette rentrée scolaire, on conserve les bonnes habitudes avec les agendas dans les diocèses. Et le mardi, c'est l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes, mené par vous, Anne-Rose Jankovic. Rebonjour Anne-Rose.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Et on va se focaliser sur ce beau week-end dans le diocèse avec, pour commencer, ce pèlerinage à Eas. Eas, c'est dans les montagnes, vraiment pas loin de Gavarnie.
Exactement, Notre-Dame d'Eas est le plus ancien sanctuaire marial des Hautes-Pyrénées. Les écrits du XIVe siècle attestent par les riches donations de prestige acquis par le sanctuaire sanctuaire dédié à la Vierge Marie, et bien que ce sanctuaire qui se trouve dans la vallée de Barège, au pied du cirque de Troumouse, voisin des cirques d'Estaube et de Gavarnie à 1550 mètres d'altitude, attire depuis donc plusieurs siècles les fidèles des vallées. Chaque année, donc le premier week-end de septembre, les habitants de la vallée et les fidèles du diocèse sont invités dans ce sanctuaire pour rendre grâce et confier à la Vierge Marie leurs intentions. Rendez-vous donc ce samedi 5 septembre pour la journée de pèlerinage. Alors au programme à 11h, il y aura la messe présidée par l'évêque du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, Monseigneur Jean-Marc Mika, suivi de la prière de l'Angélus. Et puis ensuite, il y aura l'inauguration et la bénédiction de deux nouveaux portraits, l'un de Sainte Bernadette et le second du bienheureux Pascal Vergès. Ces deux portraits qui vont donc être posés dans la chapelle Notre-Dame des Asses. Voilà, rendez-vous pour tout le diocèse ce samedi 5 septembre dans un lieu absolument magnifique et dans un lieu de piété et de ferveur populaire et mariale, vraiment très, très marqué, très marquant pour la vie de la Bigorre.
Voilà, samedi, rendez-vous donc au sanctuaire des As. Autre rendez-vous, eh bien, ce sera le lendemain, dimanche. Une belle journée vraiment en perspective pour le diocèse de Tarbes-et-Lourdes avec une grande journée pour les enfants et les jeunes ce dimanche.
Une journée diocésaine pour les jeunes de 7 à 35 ans, dimanche 6 septembre, à partir de 10h et jusqu'à 15h. Les enfants et les jeunes du diocèse de Tarbes-et-Lourdes sont invités à se retrouver à la maison diocésaine, la maison Saint-Paul, à Tarbes, pour une journée donc de prières, de jeux, d'ateliers artistiques et de temps festif. La journée coordonnée par le pôle Annonce de la Foi est organisée par une équipe de jeunes venus de différents groupes d'aumônerie le dimanche 6 septembre et donc marquée et sera donc une journée pour les jeunes et par les jeunes. Alors pourquoi rassembler les jeunes? Eh bien l'objectif est tout simplement de leur offrir les moyens d'expression de la foi pour que chacun après reparte dans sa paroisse. Il ne s'agit pas de les cloisonner, mais que eh bien ils puissent puiser là quelques outils et voilà un peu d'enthousiasme missionnaire pour repartir après. Voilà, partager tout cela avec la communauté paroissiale où ils vivent. Nous voulons vraiment dire aux jeunes du diocèse que eh bien ils ont leur place dans le projet pastoral, qu'il n'y a pas de projet pastoral par tranche d'âge, mais un projet pastoral pour l'ensemble des chrétiens de la Bigorre et des Quatre Vallées. Les jeunes ont pleinement leur place et leur rôle dans cette vie diocésaine, nous a expliqué Thibault Leblon, le coordinateur du pôle Annonce de la Foi sur l'antenne de Radio Présence il y a quelques jours. Cette journée diocésaine pour les jeunes, donc de 10h à 15h à Maison Saint-Paul ce dimanche 6 septembre pour prier, jouer et vivre des temps très forts.
Voilà, cette journée se terminera à 15h, puisqu'à 16h, il y a vraiment un autre temps fort pour le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. C'est Corentin Larguins qui sera ordonné diacre.
L'un de nos séminaristes pour le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, Corentin Larguins, effectivement, qui sera donc ordonné diacre en la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes ce dimanche 6 septembre, vous l'avez compris, ce sera à 16h. C'est Monseigneur Jean-Marc Mika, évêque de Tarbes-et-Lourdes, qui présidera cette messe d'ordination. Corentin Larguins poursuit donc sa formation et son discernement. Il pourrait être ordonné prêtre au cours de l'année 2027. C'est donc une ordination diaconale en vue du presbytérat. Évidemment, tous les fidèles du diocèse de Tarbes-et-Lourdes sont invités à la cathédrale donc ce dimanche à 16h pour prier pour Corentin, pour lui et avec lui. Voilà l'occasion de cette ordination. Si vous voulez en savoir plus sur ce jeune séminariste de 30 ans qui se prépare donc à devenir prêtre pour le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, eh bien vous pouvez retrouver son portrait et une interview exclusive sur le site de Radio Présence.
Voilà, dimanche à partir de 16h. Et pour les auditeurs qui ne pourront pas se rendre à Tarbes ce dimanche, pour les auditeurs des Hautes-Pyrénées, eh bien sachez que vous pourrez suivre la retransmission en direct sur notre antenne de cette ordination.
Bien sûr, nous y serons, nous sommes de toutes les fêtes.
Voilà, connaissez-vous la personne qui va commenter cette ordination?
Je crois que c'est moi.
Voilà, bien, voilà.
Même si je ne commentais pas, j'y serai de toute
bien
façon.
Bien sûr.
Voilà.
Voilà, un beau week-end en perspective donc pour le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Autre beau week-end à venir, on n'en a pas parlé, mais c'est évidemment le week-end du 26 septembre avec le pape.
Évidemment, tous les fidèles, encore une fois, du diocèse de Tarbes-et-Lourdes se préparent à accueillir ici en Bigorre, le pape Léon XIV. Voilà, les paroisses ont mis en place des bus, de nombreux bus qui vont sillonner tous les villages des Hautes-Pyrénées, en tous les cas, tous les secteurs paroissiaux des Hautes-Pyrénées, pour pouvoir acheminer les fidèles du diocèse en la cité mariale et prier avec le Saint-Père.
Voilà pour l'agenda du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Merci beaucoup, Anne-Rose Jankovic.
Merci à vous, Gilles.
Radio Présence se mobilise pour la venue du pape Léon XIV. Émission spéciale, reportage, retransmission. Suivez du vendredi 25 au lundi 28 septembre la venue du pape Léon XIV en France sur Radio Présence.
Monday, it's just another morning. Tuesday, I only feel like living. Day after day, life slips away. Moi, je vis d'amour et de danse. Je vis comme si j'étais en vacances. Je vis comme si j'étais éternelle. Comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires et d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi
vacances sont terminées, et c'était encore une tonalité estivale à l'instant sur Radio Présence avec Laissez-moi danser. À suivre dans un quart d'heure l'actualité régionale, mais auparavant on vous retrouve Androse Jankovic.
Et oui, alors vous voyez, j'ai beau avoir mon petit cartable tout bien préparé en ce jour de rentrée, eh bien ça n'empêche pas les aléas du direct, et donc eh bien notre invitée, voilà, présidente de l'ADAPI dans les Hautes-Pyrénées, n'a peut-être pas trouvé le studio. En tous les cas, elle n'est pas présente pour répondre à nos questions. Elle devait nous parler de l'accès à l'école pour les enfants en situation de handicap, puisque si l'école est un droit absolument fondamental, eh bien, il faut savoir que son accès reste inégalement garanti pour de nombreux enfants qui sont donc en situation de handicap. C'est ce que dénonce l'UNAPI nationale à travers une grande campagne intitulée « J'ai pas école » et c'est ce dont devait nous parler ce midi la présidente de l'ADAPI des Hautes-Pyrénées. Eh bien, nous espérons qu'elle retrouvera le chemin de Radio Présence pour venir répondre à nos questions un autre jour. En attendant, eh bien, écoutez, je vous propose, nous en parlions il y a un instant, d'écouter l'interview tout à fait exclusive et passionnante de Corentin Laguins, qui est séminariste pour le diocèse de Tarbes et Lourdes et qui sera ordonné diacre en vue du presbytérat ce dimanche 6 septembre.
Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Bonjour Corentin Laguins.
Bonjour Anne-Rose.
Je suis ravie de vous accueillir au micro de Radio Présence. Corentin, vous allez être ordonné diacre pour le diocèse de Tarbes et Lourdes dans quelques jours, le dimanche 6 septembre, à la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes. Une ordination diaconale en vue du sacerdoce, ça veut dire que dans quelques mois, vous serez prêtre pour le diocèse de Tarbes et Lourdes. Corentin, vous avez 30 ans, beaucoup dans le diocèse de Tarbes et Lourdes vous connaissent, et puis d'autres vous connaissent un petit peu moins peut-être. Alors on va essayer de faire connaissance et puis de voir un petit peu comment est née votre vocation, pourquoi vous avez envie d'être prêtre ici dans notre église locale. D'abord, parlons de cette ordination, une ordination diaconale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous en êtes rendu où dans votre parcours et dans votre discernement ?
Alors, ça veut dire que j'ai fini mon séminaire. En fait, on dit les séminaristes, on a l'habitude de dire que c'est la fin, mais en fait, c'est le début. Parce que on finit effectivement les années de séminaire. Donc là, ça fait à peu près 6 ans de formation. Et donc, ça fait un nombre assez conséquent d'années. Et donc c'est pour ça qu'on dit bon mais c'est bon, j'ai fini mon séminaire. En fait, c'est le début de la mission et c'est le début de voilà, pour le diaconat, du service. Et puis après, une fois qu'on est prête, ben il faut servir l'église. Donc c'est un peu le début de tout. Voilà, moi je suis rentré au séminaire il y a déjà 6 ans comme je le disais, et d'abord on commence par une année de propédeutique. Donc c'est une toute première année pour savoir si on veut vraiment rentrer au séminaire. Et puis ensuite on fait 2 ans de philosophie et après on passe en théologie. Donc moi j'ai commencé j'ai fait ma philosophie et ma première année de théologie à Toulouse, au séminaire Saint-Cyprien de Toulouse. Et après je suis parti à Rome faire mes 2 dernières années de théologie que je viens de terminer en juin.
Et pourquoi Rome et pourquoi le séminaire français à Rome ?
Parce que c'est un séminaire comme on en trouve en France. Hein. Il y a rien d'exceptionnel. La formation est la même. De toute façon, elle est organisée et généralisée. Donc, effectivement, il y a des changements sur la pratique, sur le concret, mais grosso modo, c'est la même formation partout. Et heureusement, j'ai envie de dire. Mais il faut avouer que Rome, c'est quand même un cadre particulier. Je pense qu'il y a 2 éléments importants. Le premier, c'est l'universalité de l'Église. Donc, on se rend compte, en particulier dans les facultés romaines, de la diversité de cette Église. Moi, je suis en cours avec des Sud-Américains, des Nord-Américains, des Asiatiques, avec d'autres pays d'Europe, etc.
Vous sentiez le besoin de ça, de découvrir
Alors oui, moi, je sentais le besoin de sortir un petit peu de la vision franco-française de l'Église. En fait, elle n'est pas mauvaise en soi, mais on y est forcément un petit peu bloqué dedans, puisque c'est la réalité qu'on connaît, et c'est très difficile de sortir de cette réalité, parce qu'au quotidien, on vit dedans.
Ce que vous allez faire après dans votre vie de prêtre, une réalité
exactement.
Franco-française.
Exactement. Et donc, c'est aussi important de la connaître, celle-ci. Ouais. Mais l'Église, c'est pas que ça. Et l'Église, elle a une dimension qui est universelle, comme je le disais. Et donc, on ne mesure pas à quel point l'Église en Afrique, l'Église en Amérique est un visage en fait différent et qui nous dit quelque chose de, je pense, très important de l'Église avec un grand E.
De partir à Rome, ça a fait mûrir votre vocation quelque part. Ça vous a aidé.
Ça
vous a posé des questions.
Non, ça a complété en fait. Moi, c'est ce que je cherchais. Je cherchais à compléter justement cet élément de la formation. Donc il y en a qui partent en stage des fois dans des pays en développement, etc. et qui se mettent au service de réalités qui sont vraiment différentes de ce qu'on connaît dans notre quotidien. Et moi, je cherchais à connaître ça par justement en changeant de pays par le séminaire. Je peux dire que c'est réussi parce que justement à la faculté, voilà, il y a beaucoup de réalités différentes et on voit bien les façons de penser différentes, les cultures différentes qui viennent en fait pas du tout s'opposer, mais justement se compléter, et ça nous permet aussi de relativiser un petit peu nos réalités propres. Et donc le deuxième élément, moi, que j'ai trouvé important, c'est la proximité avec le Saint-Siège et le Saint-Père. En fait, c'est un peu le cœur de l'Église, en fait, le cœur à la fois de l'Église institutionnelle, mais c'est aussi le cœur de l'Église historique avec on sait bien Saint-Pierre et Saint-Paul. Et donc moi, j'avais envie de me rapprocher de ça pour voir comment on pouvait gérer quelque chose d'aussi délicat, d'aussi j'allais dire difficile que l'Église à partir d'un centre qui est nécessairement géographique. Et là, on a la chance, voilà, de pouvoir un petit peu voir les différents dicastères, de connaître des gens qui travaillent aussi au Saint-Siège. On a aussi la chance de servir parfois la messe du pape. Mais donc, ça nous fait connaître des réalités.
Avec une vue très large sur ce qu'est l'Église.
Exactement.
Dans toute sa dimension.
exactement. Et puis avec justement cette dimension parfois qui peut nous paraître pesante, mais plus administrative ou hiérarchique. Ouais. Et en fait, ça permet aussi de comprendre pourquoi elle a été structurée comme ça, parce que il y en a aussi besoin en fait. Sinon, ça partirait un peu à droite à gauche. Mais c'est aussi une vraie richesse de Rome.
Quand vous êtes en formation à Rome, vous avez néanmoins une paroisse d'insertion, de rattachement ici dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, dans lequel vous vivrez votre vie de prêtre.
Alors tout à fait. Quand je suis à Rome, j'ai à la fois une paroisse à Rome parce que ça me permet d'y aller le week-end. Mais quand je reviens dans le diocèse, je suis rattaché à la paroisse de Lourdes, du pays de Lourdes, donc maintenant une grande paroisse. Mais je reviens effectivement à Lourdes dans le diocèse et je me rends compte quand donc j'y suis assez peu finalement puisque je passe quasiment toute mon année à Rome. Je reviens pour Noël, Pâques et l'été. Mmh. Mais quand j'y suis pas, je me rends compte. En fait, c'est quand même difficile. C'est aussi peut-être un désavantage d'être aussi loin, c'est que on voit passer la vie diocésaine et c'est difficile de s'impliquer dedans. C'est difficile de se sentir parfois un petit peu éloigné. C'est comme ça et c'est temporaire, heureusement. Mais voilà, donc revenir dans une paroisse concrète, ça fait beaucoup de bien. Oui.
Qu'est-ce que vous aimez dans notre église diocésaine? Pourquoi vous avez envie d'être prêtre ici en Bigorre?
Alors déjà parce que c'est mon pays, c'est ici que j'ai grandi.
Vous êtes né à Tarbes?
Moi, je suis né à Lourdes et j'ai grandi à Tarbes et j'ai fait toute ma scolarité à Tarbes. Après, je suis un petit peu parti à Toulouse pour les études, mais je suis revenu travailler à Tarbes dès que j'avais fini les études. Donc je suis vraiment
dans le paysage diocésain. On vous a vu très jeune, oui. Impliqué auprès des jeunes, auprès du voilà.
Oui, oui, ça fait longtemps.
Aux aumôneries de jeunes, etc.
Exactement. Ça fait un petit peu ça fait longtemps que je connais les réalités de notre diocèse et ben voilà, en ayant grandi dedans, je les ai connus de l'intérieur. J'ai vu beaucoup de choses changer. Donc c'était, il s'est jamais posé la question d'aller ailleurs. Déjà ça c'est certain. C'est
vraiment là qu'est née votre vocation. C'est ici en vivant en tant que chrétien, oui, dans cette terre bigourdane que votre vocation pour être prêtre est née.
Oui, bien sûr, c'est en connaissant les prêtres qui m'ont fait grandir, les prêtres qui m'ont fait le catéchisme quand j'étais petit, les prêtres que j'ai vus à la messe quand on y allait en famille. C'est cette réalité là et même c'est peut-être même plus trivial, mais c'est les réalités concrète, en fait, c'est les paysages que moi je suis pas ici, les Pyrénées me manquent, quoi. Donc,
Rome c'est joli, mais les Pyrénées.
Rome, ouais, c'est les Pyrénées, c'est mieux. J'ose le dire, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand j'étais petit, j'allais au sanctuaire très régulièrement, en famille, etc., etc. Donc, c'est évident que c'est une réalité qui importe et il n'y en a pas d'autre, quoi. C'est évidemment ce diocèse.
Ça veut dire que vous suivez quand même de près, même en étant à Rome, l'actualité et la vie diocésaine, y compris le changement qu'on connaît depuis un an de la réorganisation de nos paroisses, avec la publication aussi des orientations pastorales de Mgr Mika, notre évêque. Quand vous voyez tout ça, quand vous lisez les orientations pastorales de notre évêque, qu'est-ce que vous vous dites? Ça vous fait envie?
Ben c'est ce que, en fait, c'est assez marrant comme question parce que je me souviens de Mgr Mika qui avait, je pense que c'était lors d'une homélie, mais qui avait dit au peuple fidèle devant lui qu'il avait discuté avec des séminaristes des nouvelles orientations et qu'il s'était dit assez intéressé et en tout cas il trouvait ça motivant pour la suite. Ben j'avoue que je lui en avais parlé un petit peu et je lui avais exprimé ce retour là. Donc évidemment je suis quand même les actualités diocésaines. Heureusement aujourd'hui c'est assez facile avec internet. Et ben oui, je vois tous ces changements. Je les suis attentivement et je me réjouis de tout ça et je vois qu'en fait l'image qu'on pourrait coller à l'Église de c'est une vieille institution qui n'arrive pas à bouger et un peu la personne âgée qui se déplace difficilement, on a un peu cette image là. Ben en fait non seulement c'est pas une image dégradante cette image là parce qu'effectivement l'Église est une vieille dame et c'est beau parce qu'elle a l'expérience des années, mais en fait elle est pas du tout que ça. Et on le voit là, en particulier, je pense à un événement qui approche bientôt, c'est la venue du pape. Mais elle bouillonne l'Église et elle a hâte de faire bien les choses. De tout le monde est motivé par cette venue. Et donc je le vois aussi dans le diocèse. Toutes ces réformes qui sont pas juste à visée administrative ou organisationnelle, parce que souvent réforme, ça fait un peu penser à ça. On pense aux réformes du gouvernement,
quelque
des choses comme
lourd.
Ça. Voilà. Et puis chacun veut mettre sa patte, etc., etc. Moi, je pense pas que ce soit la même réalité dans l'église diocésaine ou dans l'église tout court. Mais en fait, c'est un pasteur qui se met à l'écoute, et je parle de l'évêque, qui se met à l'écoute des réalités diocésaines et qui essaie de trouver le mieux pour ces réalités-là. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup, et je préfère ça à une sorte d'immobilisme ou même une pudeur excessive à dire on ne touche à rien, dans la peur de mal faire ou de faire différemment. Voilà, je préfère ces changements-là, oui.
Alors, servir l'Église dans un diocèse, ça veut dire aussi être impliqué dans des territoires qui sont parfois très différents. Là, on parle de Tarbes, de Lourdes, des jeunes. Là, ce sont des réalités effectivement visiblement, manifestement dynamiques. Il y a peut-être des territoires un peu plus reculés où là, il faudra mettre une énergie différente pour encourager les communautés paroissiales qui sont peut-être plus pauvres, qui ont vraiment la foi, mais qui sont moins nombreuses. Quelle qualité, quelles compétences vous avez envie de donner à ces réalités-là ?
Alors, ce qui est certain, c'est que je partage tout à fait votre constat. C'est un peu facile ou c'est un peu évident de se concentrer sur les grosses réalités ou les gros pôles de mission. Voilà, on voit Tarbes et Lourdes, c'est facile, c'est les plus grosses villes du diocèse. On parle souvent des jeunes aussi. Moi, je sais que j'aime beaucoup la pastorale des jeunes, donc c'est naturel pour moi de m'impliquer là-dedans. Mais en fait, si je deviens prêtre, puisque c'est pas encore fait, je serai pas prêtre pour les jeunes uniquement, je serai prêtre pour tous les habitants du diocèse, et ça c'est un vrai défi. Donc moi j'ai encore à apprendre, c'est pour ça que tout ne s'arrête pas une fois qu'on est ordonné. Moi je veux davantage connaître les réalités, et j'en connais quand même quelques-unes, voilà, vu que je suis d'ici, mais effectivement il y a une telle variété de réalités dans le diocèse. Si on parle des réalités géographiques, c'est clair que les différentes vallées avec le nord du diocèse, c'est très différent. Si on parle des jeunes avec les personnes âgées, c'est très différent. Il y a mille choses à faire dans l'église, et ces mille choses nous attendent finalement. Mais il faut pas non plus le danger, ce serait de se dire je suis le Messie, je vais sauver tout le monde. En fait, on va peut-être un peu se calmer, on va donner ce qu'on reçoit de la prière et du Christ là où on nous appellera, et on va faire petit à petit. Faut être un peu raisonnable aussi. Je suis pas du genre à me réfréner. Je suis plutôt assez vif, et j'ai besoin que d'y aller et d'agir. Mais il faut pas non plus partir partout et faire des choses tout seul. On n'est pas là pour.
Donc vous comptez sur les communautés chrétiennes aussi.
Je compte évidemment. En fait, moi, ce qui me touche beaucoup, mais je pense que j'aurai l'occasion de le dire à d'autres moments, ce sont ces réalités qui font pas de bruit. Je pense qu'on a vite fait de les oublier. Ce sont les gens qui, il y a pas longtemps, j'étais dans une maison de retraite. Ce sont ces gens-là qui sont plutôt seuls, mais qui passent leur temps à prier, en fait, pour le diocèse. Ils me disent qu'ils prient pour moi quand je les croise. Et ça, c'est une réalité.
Et c'est vrai que dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, on prie beaucoup pour nos séminaires.
Mais c'est très, très important. Il faut continuer. Mais ça, c'est une réalité qui me touche profondément. C'est la sainteté humble du quotidien. Et moi, je suis émerveillé. C'est vraiment quelque chose qui me touche d'être témoin de ces vies saintes, quotidiennes, qui font pas du tout de bruit. Cette petite sainteté, c'est un peu un moteur pour moi.
Vous allez être ordonné diacre le dimanche 6 septembre à Tarbes, Corentin Laguens. Vous l'avez dit, après, le chemin n'est pas terminé. Être diacre, c'est pas encore être prêtre. Qu'est-ce qui va se passer durant les quelques mois? Vous êtes encore en discernement. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un diacre qui se prépare à être ordonné prêtre?
Alors effectivement, ici il y a une petite particularité entre diacre permanent et diacre en vue du presbytérat. Le diacre permanent s'arrêterait entre guillemets à cette étape. Bon, encore une fois, c'est pas un arrêt, c'est le début. Pour ma part, normalement, en tout cas d'après ce que prévoit le droit canonique, il y aura l'ordination sacerdotale plutôt, faut envisager fin d'année prochaine, donc dans à peu près un an. D'ici là, l'évêque m'enverra en mission Je suis pas sûr de pouvoir trop en parler, mais c'est l'évêque qui annoncera.
En tous les cas, vous devriez avoir une mission locale.
Alors c'est ce qui est sûr, c'est que je suis envoyé en mission puisque encore une fois le droit canonique le prévoit.
Ça c'est prévu.
Oui, bien sûr.
Voilà. Corentin Lingas, qu'est-ce que vous aimeriez dire peut-être aux auditeurs de Radio Présence ? Alors, on a parlé de la prière et on entend que c'est très important de savoir que des gens prient pour vous, et même si vous ne le savez pas, eh bien, la prière, elle porte certainement ses fruits. Au-delà de la prière, les diocèses, les fidèles du diocèse sont invités à votre ordination diaconale le dimanche 6 septembre, mais qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ?
J'aimerais leur dire d'aimer l'Église. C'est pas forcément facile, et c'est peut-être facile de le dire et pas facile de le faire. À la fois l'Église locale, l'Église diocésaine, avec aussi ses imperfections, mais l'Église universelle, d'arriver à dépasser la vision peut-être humaine de l'Église et institutionnelle, comme on le disait tout à l'heure. D'aimer l'Église qui est sainte, l'Église qui en fait nous veut, elle veut la sainteté pour nous, et c'est dans l'Église que on sera saint. Et donc de sans cesse chercher à connaître davantage l'Église pour l'aimer davantage.
Merci beaucoup, Corentin.
Merci à vous.
À bientôt sur Radio Présence et bon préparatif. Vous partez en retraite, on peut le dire. Vous partez pour plusieurs jours de retraite à Ancalcate avant votre ordination diaconale. Donc soyez assurés de nos prières.
Merci beaucoup. Au revoir.
Voilà pour cet entretien enregistré il y a quelques jours par Anne-Rose Jankovic. Voilà Corentin Lingas qui sera ordonné diacre ce dimanche 6 septembre à Tarbes. 12h31, c'est le moment de faire un point sur l'actu régionale avec Éric Leclerc.
Bonjour Social, la grève massivement reconduite chez Airbus en Espagne. Un mouvement débuté le 25 août pour demander une amélioration des conditions de travail. En France, la CGT réfléchit à lancer un appel à la grève le 12 septembre. En effet, ce jour-là, une manifestation est prévue à Madrid. Mutation au parquet général de Bordeaux de la procureure d'Auch, Clémence Meyer. Elle était en poste depuis novembre 2023, victime de harcèlement et de menaces de mort après le décès de Liana en juin. À ce jour, on ne connaît pas le nom de son successeur. Décès d'un randonneur de 75 ans ce dimanche dans les Pyrénées, suite à une chute sur un sentier au-dessus du cirque de Gavarnie, non loin de la brèche de Roland. Rentrée scolaire à l'issue des dernières négociations menées avec l'éducation nationale, Toulouse a pu obtenir pour cette rentrée 8 ouvertures de classes supplémentaires pour les écoles toulousaines par rapport à la première phase du Conseil départemental de l'éducation nationale. Scolaire toujours, la ville d'Auch vient de sortir un guide pour accompagner au mieux les près de 1500 élèves occitans et leurs parents. Au fil des pages de cet outil très pratique, on peut tout savoir sur les écoles, les inscriptions, les horaires, la restauration, les activités et les dispositifs mis en place pour des conditions d'accueil optimales à l'école, lieu d'apprentissage mais aussi d'épanouissement de l'enfant. Rugby, après la confirmation d'appel la semaine dernière d'une amende pour dépassement du plafond salarial, le Stade toulousain a réagi par un communiqué de presse, je les cite, la commission admet ainsi que le club n'a effectué aucun dépassement du salary cap au titre des saisons 2023-2024 et 2024-2025. En revanche, alors même qu'aucun dépassement du salary cap n'est retenu sur ces deux saisons, le doublement de la sanction infligée au club portait de 1 à 2 millions d'euros en raison d'un manquement à l'obligation générale de transparence et de coopération apparaît totalement disproportionné au regard des faits. Le club réunit actuellement ses instances afin d'étudier les recours appropriés auprès du Comité national olympique et sportif français et de la juridiction administrative. Un nouvel achat groupé d'énergie pour faire baisser vos factures de gaz et d'électricité sur le territoire de la communauté de communes Millau Grand Causse. Cette dernière relance un achat groupé d'énergie pour les citoyens. Le principe, en se regroupant, les habitants des 15 communes peuvent faire baisser de 15% leurs factures de gaz et d'électricité et ainsi économiser en moyenne 250 euros par an. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 septembre. La mission patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril, portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine, vient d'annoncer les 100 sites départementaux de métropole et d'outre-mer lauréats en 2026. Ils bénéficient du soutien financier de la 9e édition de l'offre de jeu Mission Patrimoine, lancée ce jour par FDJ United. En Occitanie, voici les sites concernés. La chapelle de Luja à Aumolac-Ussat-les-Bains en Ariège, la Roujarie à Saint-André-de-Vézines en Aveyron, le château de la Salvetat-Saint-Gilles en Haute-Garonne et l'église abbatiale de l'abbaye Sainte-Marie-de-Boulor dans le Gers.
Merci Eric Leclerc, voilà pour l'actu régionale à 13h. C'est l'information nationale et internationale que vous retrouverez sur les antennes de Radio Présence.
Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Il est maintenant question de rentrer avec vous, Andros Jankovic, et votre invité.
Et mon invité, bonjour Thierry Gilles.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'institution Jeanne d'Arc Saint-Joseph en plein centre-ville de Tarbes qui accueille près de 1200 élèves de la maternelle à terminale. Alors vous, vous êtes le chef d'établissement du second degré, c'est-à-dire collège et lycée. Alors en ce mardi 1er septembre, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est l'ambiance dans votre établissement? Comment se passe la rentrée? Je crois que c'est les élèves arrivent les uns après les autres, c'est échelonné.
C'est ça. Alors, on retrouve un peu la fourmilière que nous avons connue au mois de juin. Voilà, on la retrouve.
Donc, dans
effectivement,
l'autre sens.
Dans l'autre sens. Donc, ce matin, nous avons accueilli nos 140 élèves de 6e. Les 6e, depuis 2 ans, nous faisons une rentrée où ils passent une journée avec nous. Voilà, pour qu'ils s'habituent au collège. Ils rencontrent leur professeur principal avec la remise de leur emploi du temps, différents documents. Et puis, des activités sont organisées pour connaître leur établissement. Et puis cet après-midi, nous allons accueillir à des heures différentes tous les lycéens.
Voilà, donc toute l'équipe éducative est mobilisée, on imagine, depuis déjà plusieurs jours.
De toute façon, oui, tous les services administratifs et de direction, on est sur le pont depuis le 18 août. Finaliser les emplois du temps, les listes de classe, et préparer cette rentrée. Et puis hier, j'ai accueilli l'équipe des enseignants du collège et du lycée, donc qui représente une cinquantaine d'enseignants, et tout le personnel éducatif de l'établissement, pour reprendre cette nouvelle année.
Alors chaque année, la rentrée scolaire arrive avec son lot de nouveautés, peut-on dire. Alors évidemment, il y a cette année l'interdiction du téléphone portable au lycée, portable qui était déjà interdit au primaire et au collège, on peut le préciser. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Thierry Gilles? Qu'est-ce que vous aviez observé? C'était vraiment un problème, un souci que vous aviez, le téléphone portable au lycée?
Alors oui, alors on l'a pas constaté que avec la loi qui est sortie, mais depuis, on avait mis en place déjà l'année dernière. On avait au niveau des lycéens qui étaient toujours le nez dans leur portable, avec l'équipe d'enseignants, donc on avait mis en place certaines règles, leur demandant d'utiliser le moins possible leur portable aux intercours, et puis à la cantine le portable est formellement interdit, donc on l'autorisait sur les temps de récréation, la rentrée en classe ils devaient déposer leur portable dans une boîte pendant tout le temps des cours.
Voilà. Et ça marche?
Oui, ça a marché. Oui, ça marche. Mais après, je pense qu'aussi, on fait appel aussi à leur sens de la responsabilité. Donc c'est pour ça que cette année, nous en avons débattu justement hier avec les enseignants. Je ne mettrai rien d'autre en place pour le moment. Voilà, on va observer, on va regarder. Et si on s'aperçoit qu'il y a des dérives, on avisera, on discutera avec eux. Et puis si il y a vraiment de grosses dérives, peut-être qu'on sera amené ce que nous avons mis en place au collège depuis maintenant 2 ans.
Oui, parce qu'en fait, chaque établissement doit ou peut définir lui-même les modalités de mise en place de cette mesure. Hein. Donc on peut imaginer que d'un établissement à un autre, ce soit complètement différent.
Oui, voilà. On est libre de la mettre en place ou pas, cette loi. Donc nous, on a fait le choix, effectivement, comme nous avons déjà mis en place quelque chose l'année dernière. On va continuer à faire appel à nos élèves à leur sens des responsabilités. Et l'année dernière, ça a plus ou moins bien marché, mais il y en a toujours un ou deux qui dérivent, mais Ça, c'est le lot quand on travaille avec des jeunes.
Alors, voilà. pas de portable, c'est pas tellement évident, parce que en même temps, on a quand même un petit peu l'impression que tout a été fait, pensé, organisé depuis des années pour que l'écran soit aussi un outil de travail. Derrière, il y a cette fameuse question, est-ce qu'un élève, et en particulier au lycée, peut suivre, peut être à jour de ses cours, de ses leçons, de ses devoirs, sans une utilisation des écrans et de son portable en particulier?
Alors, sur Jeanne d'Arc, si vous voulez, ils peuvent effectivement utiliser leur portable. Ben, déjà, quand ils passent à la cantine, parce qu'ils ont leur carte ils peuvent avoir leur carte sur le portable. Et les cours, bon, en principe, non, puisque ils ne peuvent aller que pour aller voir École Directe, qui est l'ENT d'établissement, pour voir les devoirs qu'ils ont à faire. Voilà.
Mais, donc, les profs ne demandent pas en cours d'aller consulter le portable pour avoir une information, faire une recherche sur Internet.
Ça peut arriver, voilà. Mais ça peut arriver, mais avec mon autorisation, sur les matières scientifiques. Ou parfois en histoire géographie quand il y a un sujet bien précis et qu'il a besoin et qu'on peut pas, que l'enseignant n'arrive pas à avoir une vidéo pour passer sur le vidéoprojecteur, voilà, mais c'est rare.
Donc c'est quand même, il faut quand même toujours trouver l'équilibre entre l'outil qui peut être utile vraiment pour le travail et puis cet outil qui finalement permet à l'élève de s'évader, du moins dans sa tête.
Exactement, c'est ça. Mais après, bon, voilà, comme je dis, c'est des lycéens, donc il faut pas non plus les brimer et puis faire en sorte de interdire pour interdire. J'ai jamais trouvé ça très bon. Voilà, je pense qu'on a des lycéens, je pense qu'on est en face de jeunes avec qui on peut discuter et avec qui on peut trouver un terrain d'entente.
Sur
Jeanne d'Arc, c'est ce qui s'est passé l'année dernière.
Vous évoquez les ENT, les espaces numériques de travail. Oui. Alors ça aussi, c'est quand même un sujet important. Alors bien sûr, qui est lié évidemment à l'usage du téléphone portable pour les élèves. Mais l'ENT, quel qu'il soit, cet espace numérique de travail, c'est aussi un outil pour être en lien avec les parents. Pour vous, c'est quoi la priorité d'un ENT justement?
La priorité de l'ENT, déjà, c'est que les parents puissent être informés de ce qui se passe dans l'établissement, de la vie de leur enfant dans l'établissement. Et puis, deuxièmement aussi, c'est d'aller voir le cahier de texte, parce que le cahier de texte doit être numérique. Mais comme je dis souvent, le premier cahier de texte, c'est celui que les enfants ont dans leur cartable. Et que l'ENT, c'est un moyen de contrôle. Mais bon, de plus en plus, on a des enfants qui n'ont plus de cahier de texte et qui systématiquement se réfugient derrière cette ENT. Et parfois, les enseignants n'ont pas forcément le temps de mettre les devoirs dessus et ça pose problème. Voilà. J'engage souvent les parents à avoir ce cahier de texte. Voilà.
Ouais, alors, j'imagine que vous, en tant que chef d'établissement, vous êtes aussi là pour poser des règles, peut-être à l'égard des parents, des enseignants, avant même à l'égard des élèves, parce que c'est facile d'envoyer des messages, même très tard le soir, soit aux parents, soit à l'élève, soit aux enseignants.
Même le dimanche au chef d'établissement.
Ouais, alors justement, quelle consigne ou quel conseil vous pourriez donner, vous, en tant que chef d'établissement, pour que cet outil-là soit vraiment un service et pas une dérive?
Je dirais que c'est pas tellement un conseil. Je fais appel surtout à ce que les parents soient raisonnables. Parce que c'est vrai, vous voyez, quand je vous dis, même un mail au chef d'établissement un dimanche à 10h ou à 2h de l'après-midi, je veux dire, bon, on peut attendre le lundi matin d'envoyer ce mail-là. De toute façon, au niveau des enseignants, c'est très clair, j'ai fait valoir le droit à la déconnexion. Et systématiquement, en principe, et ça c'est un contrôle qu'on va encore refaire, mais en tout cas moi à mon niveau, j'ai mis systématiquement en fin de page, si vous voulez, que le mail ne demande pas une réponse rapide, parce que bon, moi ça peut m'arriver, mais entre nous, si vous voulez, entre chef d'établissement et enseignant même, que ce mail ne demande pas forcément une réponse et que ça peut attendre. Mais les parents, c'est ce que je leur demande aussi, voilà, d'être raisonnables. Parce que parfois aussi, tout d'un coup, on s'aperçoit le dimanche, peut-être à 4h, que son enfant n'a pas noté le travail qu'il fallait faire, ou demander l'indulgence d'une enseignante parce qu'on n'a pas eu le temps de faire le travail. Donc, voilà.
Vous trouvez les parents un petit peu exigeants sur...
Très exigeants, oui. Oui, tout à fait. On a des parents qui sont très exigeants. Parfois, c'est pas forcément une demande. Parfois, c'est aussi... une altercation parce qu'on n'est pas content de quelque chose.
Vous
on est derrière un écran, quand on est derrière un écran, on se libère. Voilà. Et ce qui fait que les relations peuvent être tendues entre les enseignants et les parents et l'établissement.
Voilà. C'est intéressant ce que vous dites, Thierry Gilles, parce qu'alors on parle beaucoup de l'apprentissage du téléphone portable et du numérique en général pour les jeunes. Et puis en fait, vous êtes en train de nous expliquer que tout le monde aurait peut-être un petit peu besoin de formation ou du moins de vigilance avec l'utilisation du numérique.
Complètement, complètement. Voilà, on a des parents qui effectivement, à partir du moment où ils ont envie de dire des choses, ils se retiennent pas, on y va. Parfois, ben, c'est des mails qui sont quand même assez violents, voire même insultants. Voilà, donc c'est compliqué. Et ça, je demande aux parents, plutôt que de faire ça, de venir en parler. Je préfère un dialogue en vis-à-vis que plutôt ce genre de choses, parce que ensuite, quand on n'est pas content, on répond et puis voilà.
Ne pas répondre quand on est en colère, quoi, sur le coup.
Et en même temps, ça entraîne des mécontentements et puis ensuite des quiproquos. Voilà. Et puis je demande aussi aux parents quand ce genre de choses. Bon, ok, on a tous été jeunes, mais de temps en temps, il faut pas non plus croire tout ce que disent les enfants. Ce serait bien aussi de temps en temps de dire ah bon attends mais je vais quand même appeler l'enseignant ou je vais appeler la direction ou je vais appeler la vie scolaire pour savoir si c'est vrai quoi.
Voilà le dialogue, c'est ça qu'on comprend, le dialogue, le dialogue et le vrai dialogue.
À l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est primordial dans notre société. Je veux dire on est tous derrière notre écran, on est tous derrière un portable et on se libère et le dialogue, on n'a plus de dialogue. Donc, à un moment donné, ça pose des problèmes.
J'ai encore deux petites questions pour vous, Thierry Gilles. On a parlé beaucoup au début de l'été du piratage informatique qui a visé l'éducation nationale. Quid dans l'Académie de Toulouse, on nous dit que ce n'est pas tout à fait résolu. Est-ce que ça, justement, pour l'UNT dont on parle là, est-ce que vous avez des soucis? Est-ce que la rentrée est plus compliquée à cause de ce piratage?
Alors, l'UNT, pour nous, là, enfin, en tout cas, là, je peux parler de l'enseignement privé, on n'est pas comme nos collègues du public, on ne dépend pas du rectorat. Donc on a nos propres, enfin en tout cas ceux qui l'utilisent, hein, on a nos propres logiciels par une autre société. Donc nous ne sommes pas impactés comme peuvent l'être nos collègues au niveau des emplois du temps, des listes de classe. Par contre, on est impactés sur tout le reste. Voilà. C'est-à-dire sur les enseignants, les placements des nouveaux enseignants, là oui on est impactés. Puisque je vous confirme qu'à l'heure d'aujourd'hui, le rectorat de Toulouse est dans une grosse difficulté de ce côté-là, oui. Donc à l'heure d'aujourd'hui, en tant que chef d'établissement des Jeunes d'Arc, oui, je suis impacté dans le sens où je ne peux pas introduire des enseignants qui me manquent parce que le rectorat ne peut pas le faire.
Et on vous dit quoi, ça va rentrer dans l'ordre dans les jours qui viennent ou
La semaine dernière, on nous a expliqué que ça risquait de durer au moins 3 semaines.
D'accord, donc on sera presque aux vacances de la Toussaint, en fait.
Ah bah oui, voilà, mais bon, on va croiser les doigts quand même, j'espère quand même que ça va se résoudre avant, parce que, je veux dire, rester sans enseignant pendant pratiquement jusqu'aux vacances de la Toussaint, c'est pas raisonnable, voilà. Alors que ces enseignants, je ne le sais pas moi-même à l'heure d'aujourd'hui, mais ces enseignants peut-être sont déjà nommés sur Jeanne d'Arc, voilà. Mais comme je n'ai pas été informé par le rectorat, je ne sais pas.
Voilà. Donc en fait, quand il y a un piratage de cette ampleur, il n'y a pas des moyens classiques qui sont mis en place en urgence et efficaces.
Absolument. Pour vous dire, c'est que hier journée de rentrée des enseignants, on doit faire remplir un document qu'on appelle un PV d'installation, pour que les enseignants confirment bien leur nombre d'heures et qu'on doit envoyer ce document au rectorat. Donc, d'habitude, on a toujours quelques jours et on envoie tout par mail. Cette année, il a fallu envoyer tout par la poste pour que le rectorat puisse recevoir ces documents-là. Ces documents qui sont très importants, puisque ces documents c'est avec ces documents-là que les enseignants doivent être payés à la fin du mois.
Ah oui, donc on comprend l'importance de ces documents.
Ah oui, c'est très, voilà. On est revenu à l'ancien temps, c'est-à-dire qu'on travaille avec le papier, voilà.
Une dernière question, Thierry Gilles. Oui. Pour vous, ça tient à quoi une année scolaire réussie? Les ingrédients d'une bonne année scolaire, c'est quoi?
Oula.
Allez, en 30 secondes en plus. Oula, c'est la copie du jour.
Oui, là, c'est...
D'avoir 20 sur 20.
Oui, je ne sais pas mais si j'aurais 20 sur 20, mais non, mais la réussite d'une année, c'est... Je dirais que c'est que tout se passe correctement dans un établissement scolaire, que que tout le monde fasse son travail correctement, qu'on soit, enfin là je parle plutôt pour l'enseignement catholique, hein, mais voilà, quand on parle de bienveillance, d'unité, voilà, pour moi c'est ça aussi, c'est ça une année réussie, c'est que tout le monde travaille dans la bonne entente. Je vous disais tout à l'heure par rapport au numérique, quand ça va pas, on vient dialoguer. Je dis pas qu'on soit d'accord sur tout, mais au moins on peut dialoguer, on peut s'écouter. Et voilà. Et c'est aussi, ben, quand on a en tant que chef d'établissement de bons résultats aux examens, là on se dit que tout le monde a fait correctement son boulot, les enseignants, les parents, voilà, tout le monde, les élèves, et qu'on emmène aussi nos élèves. Vers leur choix de vie, que c'est pas un choix que nous, en tant qu'établissement, on leur a imposé dans les classes à orientation. Voilà.
Merci.
En quelques mots, parce que c'est votre question quand même est assez vaste. Voilà.
Merci beaucoup Thierry Gilles.
Donc,
je rappelle que vous êtes le chef d'établissement du collège et lycée Jeanne d'Arc, l'institution Jeanne d'Arc en plein centre-ville de Tarbes. Bonne rentrée à vous et bonne année scolaire à vous et à vos équipes, à tous les élèves également.
Merci beaucoup. Au revoir.
Présence.
Merci Anne-Rose Jankovic. Et vous, quels sont les ingrédients d'une bonne rentrée radiophonique, d'une bonne année radiophonique?
Ah ben, écoutez, je retiens la leçon de Thierry Gilles. D'abord, le dialogue, parce que pour bien parler aux auditeurs, il faut d'abord être à leur écoute. Et c'est ce que nous essayons de faire sur Radio Présence.
Voilà, mais bonne réponse. Bravo.
Bonne réponse, j'ai 20 sur 20.
Ouais, vous pouvez même revenir.
Je suis contente.
Demain à la radio.
À mon époque, quand on avait une bonne réponse à l'école, on avait des petites images.
Oui,
et au bout des 10
aussi.
Images, on avait un petit gadget.
Voilà, nous, on n'avait pas le gadget, mais on avait les images. Je pense qu'on est à peu près de la même époque. Je ne sais pas si ça existe
c'est
encore.
C'est possible.
Bon, bah écoutez, demain je viendrai avec des images.
Je vous remercie, Gilles.
Allez, merci Anne-Rose, bonne journée. Dans un instant, on va parler du tramway. Vous savez qu'il y avait un tramway à Lourdes il y a quelques dizaines d'années.
Mais pas seulement à Lourdes, le tramway était présent sur de nombreuses voies des Hautes-Pyrénées. Il paraît même qu'on pouvait aller jusqu'au bout de la vallée de Campan et jusqu'à Maubourguet. Je rêve voilà. Que le tramway revienne.
Je ne sais pas si c'est prévu, mais en tout cas, on va parler du tramway de Lourdes. Merci Anne-Rose.
Merci.
Et bon appétit.
Mr. Gabo Malay.
Welcome to New York City, ladies and gentlemen. All right.
Start spreading the news.
All right.
I'm living today. I wanna be a part of it.
Yeah.
New York, New York.
Through the very heart of it, New York, New York. I wanna wake up in a city that never sleeps. I'm fine, I'm cute on the hill, top of the hill. These little town blues are melting away. Start of it, Beetle, New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Come on, give it.
Et c'est sur la reprise de New York, New York avec toute l'équipe. On vous souhaite un bon appétit. Dans 10 minutes, l'actualité nationale et internationale avec la rédaction française de Radio Vatican. Et dans un instant, direction l'Office de tourisme de Lourdes pour parler du tramway à Lourdes.
Présence dans la vallée de la Rance, 93.1.
Radio Présence se mobilise pour la venue du pape Léon XIV. Émission spéciale, reportage, retransmission. Suivez du vendredi 25 au lundi 28 septembre la venue du pape Léon XIV en France sur Radio Présence. Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
À la fin du 19e siècle, des tramways circulaient à Lourdes. Et pour nous en parler aujourd'hui dans Balade à Pays de Lourdes, j'ai le plaisir d'accueillir Elaïa. Bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie de l'Office de tourisme de Lourdes. Je le disais, les tramways ont été lancés en août 1899 à Lourdes.
Oui, c'est ça. C'est une période où Lourdes était en pleine transformation et ça devenait quand même assez indispensable de relier la ville au sanctuaire. Donc le projet a été lancé par des investisseurs parisiens qui étaient quand même convaincus du potentiel de Lourdes. Mais ça a été très vite repris en 1900 par la compagnie des tramways de Lourdes qui va gérer le réseau jusqu'à la fin de sa vie. Donc tout le cœur du système se trouve rue Saint-Joseph où se situe la gare du tramway. Et aujourd'hui encore, on peut retrouver ce bâtiment qui a été transformé en ateliers municipaux.
Alors pour que les tramways fonctionnent, il faut de l'électricité. Comment ils étaient alimentés, ces tramways ?
Alors tout venait de l'usine hydroélectrique de Visens, qui a fourni une ligne haute tension spécialement dédiée à ce réseau. Donc pour une ville comme Lourdes, qui était quand même très rurale, c'est une image presque avant-gardiste.
Donc il y avait plusieurs lignes qui sillonnaient Lourdes.
C'est ça, au total il y avait 4 lignes, dont 3 qui menaient au sanctuaire. Donc ça montrait bien la fonction principale du tramway, qui était d'accompagner et organiser l'arrivée des pèlerins entre la gare, les hôtels, les commerces et les sanctuaires. Et c'est lors des grandes processions que les tramways se succédaient en continu dans la ville.
Alors pourquoi les tramways ont disparu ?
Ils ont disparu parce que déjà, il y a la réalité économique qui était quand même fragile. Le réseau n'était pas rentable et la fréquentation variait beaucoup selon les saisons. Il y avait beaucoup de monde pendant les grandes périodes mariales, mais très peu le reste de l'année. Et l'entretien coûtait quand même très cher et cela représentait des dépenses quand même assez importantes pour la ville.
Voilà, et puis peu à peu, les bus ont fait leur apparition, les bus qui étaient plus flexibles dans leur utilisation.
C'est ça. Donc la fin des tramways a été progressive mais inévitable. Et c'est en 1930 que le tramway urbain de Lourdes s'arrête définitivement. Et les bus sont devenus une nouvelle référence de transport à Lourdes.
Voilà, les bus qui circulent encore aujourd'hui à Lourdes. Voilà pour l'histoire du tramway à Lourdes. Cette histoire nous a été racontée par Elaïa de l'Office de tourisme de Lourdes. Un grand merci, on se dit à très bientôt pour une balade en Pays de Lourdes.
À très bientôt.
Balade en Pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes. Songe.
Présence à Luchon, 94 FM.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Le 25e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai s'est ouvert aujourd'hui à Bishkek, au